I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode numéro 118 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de UFC 298. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un numéroté. Hein, le dernier étant en Toronto, c'est le dernier podcast sur le UFC que j'avais fait. Ça me manquait un peu. Hein. Je fais pas mal de podcasts sur One Championship aussi. Mais je suis content, heureux et puis surtout main event. Hein. Enfin, on a Volk qui tentait du moins hein, de défendre sa ceinture chez les featherweight hein, après deux combats contre un lightweight. On était dû et on a eu un narratif de fou. On a eu un fight tweet éreintante pour certains, chiante pour d'autres. il y en a hérité plus d'un. Moi, j'ai surtout eu hâte d'avoir ce combat devant nos yeux. Et comme je vous le dis, j'étais heureux d'avoir une défense de titre potentielle chez les featherweight pour Volkanovski. Eh ben, carte pas mal, hein. Carte pas mal sur le papier. On va parler de la main card uniquement aujourd'hui. Hein. J'ai vu que la main card. Je regarderai les combats, dans les prélims qui seront intéressants plus tard. Je voulais absolument faire un podcast au plus vite. Et puis, j'ai vu que ces combats-là. Je vous invite à aller voir, à écouter le podcast du Café Crème Sport. Si jamais ça vous intéresse d'entendre parler des prélims, je pense qu'ils vont tout refaire, hein, des early prélims jusqu'au prélim, jusqu'à la main card, etc. Donc voilà, allez écouter ça si jamais ça vous intéresse. Et puis moi, je vous propose, ben, évidemment, comme d'habitude, de rentrer dans le feu de l'action avec ce premier combat entre Roman Kopylov et Hernandez. Hein, chez les middleweight, donc combat chez les middleweight qui payait pas de mine, parce que moi je vous avoue que au final le Hernandez je le connaissais pas tant que ça, hein. je connaissais un petit peu son parcours, mais je connaissais pas, j'avais pas de souvenir de l'avoir vu se battre. Et bordel, Kopylov qui est censé être un des nouveaux contenders chez les middleweight, et Kopylov s'est fait stopper net, quoi. Vraiment, j'ai été impressionné par la performance de Hernandez. Vraiment, après c'est son 5e victoire de suite, hein, même s'il a tapé des gars pas forcément les meilleurs. Vous savez que quand on est chez les middleweight au UFC, même chez les classés, même chez les champions, on n'est pas forcément dans le plus haut niveau, mais malgré tout, j'ai envie de vous dire, Anthony Hernandez, il a quand même une... Tu sais, il était champion LFA en battant Brendan Allen. Il a gagné au Contender Series au premier round par KO. Ça a été overturned parce qu'il s'est fait toper pour Marijuana, ce qui est complètement con. Il a perdu contre Marcus Perez, que je connais pas, mais il a perdu contre Kevin Holland, et le reste il a tout gagné, quoi. Il a eu un performance of the night face à Rodolfo Vieira, il a gagné contre Marc-André Barrio, hein. Il me semble qu'il l'avait fini en plus avec head and arm, arm triangle choke. Il a battu Shabazian, et là il se fait Kopylov. Franchement, il m'a épaté dans l'agressivité. Je trouve que Kopylov avait vraiment des bons mouvements dans le premier round. On voyait que c'est un middleweight qui s'est bien bougé. Kopylov a cherché à placer des high kicks. Hernandez est le premier à catcher un kick et aller chercher un takedown derrière. Donc déjà, directement, esprit entreprenant de Anthony Hernandez. Kopylov gère bien son range, par contre, dans les échanges brefs. En face-à-face, il connecte plus les mains, je trouve, que son adversaire Hernandez. Et Hernandez, lui, il s'est très vite adapté face à ce problème qu'était Kopylov en face de lui. Il a poussé contre la grille, aussi bien en striking qu'en wrestling. Et son wrestling était très, très agressif. C'était un wrestling pour aller chercher du grappling, pour potentiellement aller chercher du sol derrière et potentiellement aller chercher une finition. Kopylov sortait bien au début dans le premier round, mais c'est Hernandez qui poussait toujours et encore, hein, single leg contre la grille, gros pace de Hernandez. Même avec un body lock, hein, Kopylov touchera le mat uniquement avec les genoux. Il n'y aura pas de takedown à proprement parler. Après ça compte comme un takedown, me semblerait-il. Mais bon, il s'est retrouvé en tortue. Hein. En plus, il ne s'est pas retrouvé sur son dos, ce n'était pas la cata. Mais directement, on voyait le gros pace de Hernandez. Et je me dis, est-ce que le gars va être capable de tenir 3 rounds comme ça? Parce que c'est chaud, puis en plus il a fini avec quelques coudes en fin de round, donc gros pace, c'est premier round pour Hernandez, je dirais. Deuxième round, quelques échanges vifs en anglaise au milieu du ring. Hernandez continue avec ce pace. Hein. Kopilov est dangereux par contre sur les counters en kick. Hernandez en a mangé quelques-uns dans le corps au niveau sur des body shots. Clairement, il a fait une grimace où il n'a pas aimé. Ou alors il a acquiescé, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il y avait du respect sur le MMA de Kopilov. Il en a mangé deux, d'ailleurs, qui l'ont fait très mal. Mais sur le deuxième, il a réussi à passer ce takedown dans le process. Il passe un body lock et il va aller chercher le dos. On est debout, hein, on est debout. Il va chercher le dos de son adversaire. Par contre, une fois qu'il va chercher le dos, il arrive à vraiment mettre son adversaire au sol. Et là, ben, c'est le début de la fin pour Kopilov. Hein. C'est beau d'être un beau wrestler, c'est beau d'être un bon grappleur. Mais on est vraiment un artiste du sol quand on s'en sort dans toutes les situations, quand on est au sol, quand on est sur son dos, quand on est au-dessus de l'adversaire, quand on est dans une demi-garde, dans une full guard, sur un full mount, avec un dos. Bref, il faut savoir vraiment aller jusqu'au bout. Et là, Kopilov a vraiment mangé le déchaînement de Hernandez. Hein. Première tentative de rear naked choke qui ne passe pas. Bon, sa tête était du mauvais côté, donc ça aurait été vraiment compliqué de finir ce premier. Le deuxième, par contre, là, j'ai pas compris comment Kadilov a survécu parce que, elle était quand même bien passée. Hein. C'est très Ernie Kitschok, il avait les deux côtés de la gorge. C'était compliqué. Je voyais que Kopilov vraiment stagnait un peu sur la défense, défendait pas les bras. Puis au bout de quelques secondes, il finit par défendre les bras, chercher le bras qui est derrière sa tête pour pouvoir défendre le deuxième rear naked choke. Hein, dans le procédé, il arrive à se remettre en tortue, mais là, Hernandez repasse par-dessus, remet bien ses crochets. Et puis au final, il arrive à s'asseoir. Et puis là, une fois qu'il s'est assis, dans le process, il a réussi à passer son avant-bras pile en dessous du menton de Kopilov. Et là, c'était clairement foutu. Hein. Troisième tentative, cette fois-ci, c'était la bonne. Waouh. Tape de Kopilov et belle performance de Hernandez. Vraiment, il m'a fait plaisir. Dog Spirit, le mec a poussé tout du long. Belle découverte, j'ai envie de dire pour moi, parce que là, j'étais vraiment concentré sur son combat. Je l'ai vraiment regardé à tête reposée, etc. Et c'est cool d'avoir un middleweight qui pousse comme ça. 30 ans, il était classé 15e, me semble-t-il. Donc il va sûrement gagner la semaine prochaine quelques places. Bravo à Anthony Hernandez et puis Kopilov. Dur quoi. Dur parce qu'on voyait vraiment, on voyait quelqu'un qui, même s'il avait perdu des combats, hein, il a perdu contre Carl Robertson, il a perdu contre Albert Duraev, mais après il avait gagné contre Alessio Di Chirico. Soriano, Claudio Ribeiro, Josh Fremd. Alors encore une fois, hein, des adversaires qui vendent pas forcément du rêve, mais 4 victoires de suite et puis quand même un petit style pas dégueu. Deux Performance of the Night en 2023. Voilà, ça sentait bon, mais bon, voilà. Stoppé par Anthony Hernandez qui, lui, a vraiment retenu mon attention. J'ai hâte de revoir la prochaine. Souvenez-vous de son nom, Anthony Hernandez. Bravo à lui, vraiment 5 victoires de suite maintenant, donc c'est beau. Et on passe au prochain combat qui, selon moi, est le premier. Après j'ai pas vu tous les prélims, mais j'ai vu qu'il y avait un combat de fou apparemment. Le premier gros combat de la soirée, c'était Merab contre Triple C, Henry Cejudo, et bordel de fou, qu'est-ce que c'était malade que cette perf de Merab. Après on sait qu'il est bon, hein. Et c'est un grinder, c'est un travailleur, donc c'est sûr que de combat en combat, il s'améliore, il a encore le temps de travailler des détails, etc. Et puis je le trouve de vraiment de plus en plus bon, et puis surtout une cardio des enfers, quoi. Ce mec a l'air ingérable, et je suis pas mal sûr qu'il est capable de tenir sur 5 rounds s'il le faut. Je crois qu'il s'est déjà battu sur 5 rounds, mais pas si souvent que ça, mais bref, clairement le mec a la trempe du champion, hein. Même si le premier round, ça a été pour Cejudo, me semble-t-il. Mais derrière, c'était complètement différent. Hein. Les deux rounds de derrière, ça a été une domination ultime de Merab face à Henry Cejudo. Premier round, ça sautille au milieu du ring, hein, tranquillement, un peu nerveux. Un peu un round de reconnaissance, première minute de reconnaissance. Merab tombe quelques spinning kicks et quelques 1-2. Là, je pense qu'on est plus dans le calcul du range, pour être honnête. Merab commence à feinter aussi, et ça, c'est de bon avis. Cejudo est calme dans la zone. Hein. Merab est en confiance dans la poche, et justement, trop de confiance tue la confiance. Hein. Il traîne trop et il se fait clipper par un crochet du gauche de Cejudo qui l'atteint. Merab recule en petit pas avec les pieds serrés contre la grille. Ça, c'est très mauvais signe, surtout pour un gars dont la spécialité est la lutte. C'était pas bon signe. Triple C pousse contre la grille, mais Merab a encore tous ses esprits et circule pour sortir. Clairement direct, je pense que ça a fait énormément de bien ce premier avertissement à Merab parce qu'il a respecté directement la distance. Merab passe quelques leg kicks prudents. On voit qu'il est plus prudent après cet épisode. Et il time un single leg après une droite de Seguro, de Cerudo, vraiment superbement bien timé. Et il le finit. Et pour moi, ça a été un huge move. Et c'est ça qui a commencé le combat pour Merab. À partir de là, Merab a commencé à dérouler, à faire du Merab, à faire ce qu'il sait faire le mieux. Mais quelle activité, quel volume. Cerudo wrestle up hein, après ce premier move. Ça, je le fais sonner un peu comme s'il l'avait gardé au sol pendant longtemps. Mais Cerudo est un très bon wrestler. Hein. Il a wrestle up, il a réussi à se relever. Et là aussi, je me dis que le combat va être beau parce qu'il y a deux très bons lutteurs qui sont capables de faire des moves flashy, qui sont dans une petite catégorie, donc ça va aller vite, ça va être beau. Moi, je me régale dans ces échanges-là personnellement. Merab balance un overhand, Cerudo recule trop et trébuche. Mais dans le scramble, Merab se retrouve en dessous, hein, dans la demi-garde. Triple C reste actif et fait travailler Merab sur son dos. Merab veut se relever et y arrive, mais Cerudo ne lâche pas le bodylock, rentre vraiment serré. Donc je pense que Cerudo le gagne avec ce premier crochet qui a fait mal, hein, clairement, à Merab. Et le corner de Merab lui dit directement, gars, fais attention en sortie de clinch, tu vas te faire clipper encore une fois, main dans les poches égale danger, hein, vraiment. Donc attention, et ça, Merab l'a corrigé, puis aussi, il s'éloignait vraiment du clinch, la main en l'air un peu avec une longue garde. Enfin voilà, ça c'était, j'ai bien aimé cette adaptation de Merab, et c'est ça qui me fait, pas peur, mais bon, si j'étais en face de lui dans la cage, clairement ça me ferait peur, parce que le gars s'adapte bien, et il est capable de gommer ces quelques petits problèmes de discipline quand c'est arrivé en live. Et c'est ça aussi la marque des champions. Deuxième round, Merab ne squatte pas dans la poche au milieu du ring. C'est Triple C hein, qui travaille beaucoup pour aller chercher des bodylocks. Il arrive à aller en chercher un, mais Merab le casse. Merab veut boxer au milieu et la première combi passe. La tête de Cerudo est secouée. Merab continue avec beaucoup de volume. C'est un combat très fun, les amis. Takedown de Merab au milieu de l'octagone. Hein, encore une fois, les lutteurs en chient un petit peu au sol. Je vous avoue que ça, c'est... j'en parle souvent et j'en parle peut-être trop, donc je vais passer au-dessus de ce mini problème que peuvent connaître les wrestlers. C'est tout se passe bien jusqu'à ce qu'on arrive en sort. Là, la créativité se perd un petit peu. Mais Merab le ramène à nouveau au sol. Cerudo respire vraiment beaucoup. Il se relève. Le pace est très très élevé. Hein. Triple C insiste trop, je trouve, sur les single legs. Surtout que ça suce énormément d'énergie. Hein. Je vous le dis, aller chercher des single legs. Même si tu les sets bien, qu'il n'y a pas trop de poids sur la jambe que tu vas chercher, ça reste compliqué à finir. Ça va chercher plus de jus. Triple C, elle insiste toujours beaucoup sur ça. Et Merab travaille le headlock par la suite. Évidemment, quand tu te foires sur des amenés au sol, tu peux te retrouver dans un headlock, hein, c'est dangereux. Il prend son temps. Ce sera la fameuse séquence où Merab a Cerudo sur ses genoux alors qu'il est au-dessus en train de sprawler, mettre beaucoup son poids sur le haut du dos de son adversaire hein, pour le garder au sol. Et puis bon, plutôt que d'essayer d'aller chercher le menton de son adversaire, peut-être aller chercher le dos de son adversaire aussi, hein, faire le tour et aller chercher le dos de son adversaire, et 30 secondes, hein, c'est pas fini. Hein. Bah, il préfère faire le malin avec Mark Zuckerberg. Après, c'est Merab, je peux pas le vouloir. Le gars sait rigoler. Le gars sait faire un petit peu la star, le rigolo. Et il est drôle, hein, il est drôle. Vraiment, genre, je l'aime bien, il est très sympathique. C'est dur de ne pas avoir un minimum de capital, sympathie pour Merab. On en reparlera par la suite, mais c'était pas forcément nécessaire. Mais ouais, whatever, par rapport à sa performance derrière, c'est vraiment pas un problème par rapport à ça. C'est pas mal. Mais troisième round, c'est là où justement Merab va vraiment ultra aussi dominer, je trouve, Cerudo. Il agresse Cerudo en ligne. En lutte, pardon, Andriy Cejudo est esselé contre la grille. Hein, Merab met beaucoup de volume dans son MMA, changement de niveau, des 1-2 en haut et on shoot pour un takedown, gros pace toujours, hein, gros pace dans le troisième. Et ça, j'insiste énormément là-dessus, la cardio de Merab est impressionnante. Je sais que c'est que 3 rounds, mais 3 rounds à ce niveau-là, à ce pace-là, c'est fou. Cejudo est toujours vivant, hein, mais il se fait ragdoll. Là, clairement, dans le troisième, c'est dur à voir. Merab est une classe au-dessus dans le deuxième et dans le troisième. Grosse perf. Voilà. Et en plus d'avoir pris ce petit échange, hein, avec Mark Zukizuk pendant le deuxième round, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, quand il l'avait en headlock. Bah, quand il a célébré sa victoire, il savait qu'il avait gagné, hein, de round 1, clairement, au moins de round 1. Mais je pense que tous les juges ont dit 29-28. Bah, il est allé parler avec Mark Zuckerberg et tout ça. Moi, je comprends pas pourquoi vous êtes obsédé avec ce gars-là, quoi. Il a monté Facebook et tout, mais Meta, je sais pas, vous aimez tous Facebook encore, vous vous loguez tous sur Facebook à regarder ce que vos parents et vos grands-parents ont à dire, quoi. Je ne vais pas m'évader, ce n'est pas la journée du vieux qui crie au nuage, j'arrête, excusez-moi, mais voilà, je ne comprends pas, hein. Et puis je crois qu'il a walkout aussi avec un team encore, Mark Zuckerberg, anyways. Voilà, c'est l'homme qui a le moins de charisme au monde dans un survêtement officiel du UFC. On passe au combat suivant, hein. ça ira mieux, on passe directement à Ian Garry face à Geoff Neal. On va parler un tout petit peu de Ian Garry, parce que c'est important pour moi, vite fait, de faire passer ce petit message, qui est que oui, je peux absolument comprendre que Ian Garry ait un comportement qui ne passe pas chez vous, que ses déclarations vous irritent, que vous ne soyez pas d'accord avec ce qu'ils disent, hein, que vous trouvez que sa situation familiale est vraiment bizarre, que vous ne feriez jamais ce qu'il fait de son côté avec son couple. Bref, enfin voilà, vous faites tout mieux que Ian Garry. Mais à la fin de la journée, je ne comprends toujours pas l'acharnement qu'il y a sur lui. Après, il y a des choses qu'on a vues en interview de la part de ses anciens training partners qui, là, m'ont un peu irrité, moi, mais à la fin de la journée, voilà ce qu'il fait de son cul, on s'en calisse, quoi. Pourquoi ça vous intéresse autant que ça, sans déconner? Ou est-ce qu'il trempe son biscuit? On s'en calisse, man. Sans déconner, occupe-toi de ton cul, quoi. Si t'aimes le MMA, man, regarde les combats. Regarde les combats et puis si tout le monde peut donner son avis sur un combat, c'est bien correct. Mais le fait que autant de fighters fassent des mèmes pourris sur Ian Garry, quoi, avec genre ouais, sa femme se fait déboîter par tout le monde, c'est tellement drôle. Mais putain, mais vous êtes des adultes de 30 ans, sans déconner, les blagues de collégiens de 15 ans, quoi, c'est à chier, quoi. Enfin, c'est même pas être d'accord ou pas, c'est que c'est pas drôle. C'est pas drôle, tu sais, genre, je veux juste dire, il y a plein de trucs qui sont pas drôles. Et quand je dis pas drôle, c'est pas méchant, c'est juste, c'est pas drôle, je comprends pas. Enfin voilà, ça c'est les à côté, le drama du MMA qui est ennuyeux à souhait. Donc on va repasser au combat. Qui, lui par contre, vous avez le droit de dire que vous avez peut-être trouvé ça un peu ennuyeux. Ça c'est absolument pas gênant. Mais Ian Garry est un problème, pas pour lui-même. Est un problème peut-être au UFC. Un problème pour la division. Pour les plus hauts dans la division, je ne suis pas sûr, quoi. Parce que j'ai un peu l'impression qu'avec son style, ça va atteindre un plafond de verre à un moment donné par rapport au classement et par rapport au niveau des bonhommes chez les welters. Genre là, par exemple, on met Ian Garry contre Leon Edwards. Je pense que tactiquement, hein, et puis je vais pas faire de plan sur la comète parce qu'on en est très loin encore, mais je pense que tactiquement, il serait pas là, par exemple. Maintenant, la façon dont il l'effectue et il gagne, qu'il y a un game plan derrière, et ça marche. Ses déplacements sont fucking bons. Son striking est précis. Son jab est long et piquant. Évidemment, il y a toute sa morphologie qui joue de son côté, hein. Et puis lui, il en joue aussi. Et puis il a raison, il fait son game plan par rapport à ça. C'est qu'il va vous tenir à la distance et qu'à la distance, c'est lui qui va connecter. Et vous, ça va être compliqué. Et Geoff Neal, lui, a pas trouvé la solution pour aller battre Ian Garry, parce qu'à la distance, clairement, ça marchait pas, et ça allait pas marcher, hein, morphologiquement parlant, ça marche pas, et puis au niveau du style de combat, et puis même, je pense, hein, du niveau du striking, bah, Ian Garry au-dessus, ça allait être compliqué d'aller le battre là-dedans. Donc, Geoff Neal, lui, sa solution, c'était d'aller lutter contre la grille régulièrement, mais faire quoi de ça? Absolument rien, juste du pure cage control et rien d'autre. Il n'y a pas eu de tentative d'amener au sol. Bon, après, Ian Garry, lui, il mettait ses frames, il mettait ses mains comme il fallait, il positionnait sa tête comme il fallait, il gardait bien ses pieds parallèles, il les écartait quand il fallait, il les rapprochait quand il fallait, il squattait un peu quand il fallait, il faisait tout ce qu'il fallait contre la grille et il arrivait à le retourner de temps en temps. Circuler autour de son adversaire, repartir à la distance et repiquer un peu son adversaire et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et c'est pas la faute de Ian Garry que Geoff Neal a voulu aller lutter contre la grille pour faire absolument rien, quoi. Domination stérile. Alors ça, c'est là vraiment la définition parfaite de la domination stérile. C'est Geoff Neal qui pousse Ian Garry contre la grille. Parce que pendant ce temps-là, bah, il ne pouvait pas rattraper le retard qu'il avait au niveau du scoring, du striking que Ian Garry avait sur lui. Et ça a été un problème. Premier round. Super déplacement de Garry, comme je vous le dis, manque un petit peu de volume dans les coups, beaucoup de lecture, alors Geoff Neal en profite pour placer plus de coups, et pourquoi il n'a pas continué sur le deuxième et sur le troisième, il plaçait de beaux low kicks, ça marchait bien, Ian Garry a vraiment été dans le timing sur tout le combat, c'est là où il plaçait ses genoux, alors ça, vous ne me l'enlèverez pas, mais ses genoux ont fait, je pense, très mal à Geoff Neal. Il les a timés super bien, je pense qu'il a dû en placer, genre sur le combat en complet, il a dû en placer 6, 7, 8 voire, et le timing de ses genoux a été très bon, et là c'est vraiment une utilisation super smart de sa morphologie. Quand vous êtes vraiment plus grand que quelqu'un et que vous êtes un striker, les genoux c'est ce que vous voulez mettre parce que bah, sa tête est plus basse, la distance est moins loin pour vous, enfin je veux dire vos membres sont plus longs, donc c'est plus facile d'aller chercher le gars en face et puis ça fait très très mal, un genou dans le plexus, dans la cage thoracique, dans le ventre ou dans la face, il y a du dégât, il y a du dégât et ça peut faire mal d'une façon ou d'une autre. Quelques jabs de timide, hein, je trouve, de Garry en counter. C'est Neal qui pousse contre la grille, mais là, comme je vous l'ai dit, on commence du cage wrestling qui sera stérile jusqu'à la fin du troisième, la mauvaise tactique de Geoff Neal. Zéro tentative de takedown, zéro damage, zéro scoring. Mais c'est tout de même Neal, je pense, qui fait un peu plus dans le premier round. Même si le timing des knees de Ian Garry était mieux, je pense qu'il y a moyen que ce soit Geoff Neal qui prenne le premier. On sent Garry plus confortable en fin de round, par contre, avec son footwork métronomique et des one-shots bien timés. Round de Garry circule très bien, avec des petits échanges dans la poche. Belle mini-combinaison et encore ces maudits knees, ces maudits genoux qui sont très bien timés. Neal, ne trouvant pas la solution, à la distance, pousse encore et encore contre la grille. Stérile, rien. Garry utilise bien ses frames, ça se passe très bien, il s'échappe, circule et quand il connecte, il va lutter. Encore une fois, grossière erreur de Geoff Neal. Pourquoi aller lutter quand tu commences à connecter alors que t'es un gangster dans la cage? Je ne comprends pas, ça ne fait pas de sens. Courte séquence où Neal combine, mais encore une fois, Garry counter et circule. Ça se passe bien pour Ian Garry. Troisième round, jab rapide et piquant de Ian Garry. Quelques kicks, certes bloqués, mais bon, ça casse le rythme de Geoff Neal. Dès qu'il essaye d'aller un petit peu vers l'avant, et ben, si la distance avec quelques jabs ou avec les attaques des genoux ne fonctionne pas pour Ian Garry, et ben, il va aller envoyer ses kicks et ça va stopper les avancées nettes de Geoff Neal et ça ne marche pas, hein. C'est compliqué, il pousse encore contre la grille, toujours pas la bonne solution, toujours la même chose, encore des knee timés de Garry, quelques jabs, on sort de la zone, fin de round tranquille pour Garry et Ian Garry très respectueux de Geoff Neal à la fin du combat. Évidemment, il se fait siffler, hein, et bon, il call out Covington, ça m'intéresse absolument pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Avez-vous vu le dernier combat de Colby Covington? Peut-être il s'est pété le pied dans le premier round, oui ou non. Enfin bref, ça ne m'intéresse pas de le revoir. Et puis, qui a envie d'entendre parler Colby Covington pendant plusieurs semaines avant un combat? J'espère que vous n'en faites pas partie. Si vous en faites partie, écoutez, hein, chacun son kiff, hein, comme on dit. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas personnellement, c'est dur. Évidemment, les gens bouent Ian Garry tout du long, comme je vous l'ai dit, genre, vous pouvez le bouer pour son combat, mais le fait que si vous allez le critiquer parce que vous n'aimez pas sa femme, enfin, je veux dire, c'est assez pathétique quand même d'aller chercher de la haine aussi loin. Évidemment, Bilal aussi, qui apparaît sur le screen, va se faire bouer aussi. Voilà, le public américain des fois. Hein, faisons plus d'events dans le Honda Center. Hein, évidemment, je ne sais pas si vous avez vu la news, mais ils vont combiner des events sur des week-ends WWE et UFC. Je crois qu'ils veulent en faire 3 sur les prochaines années, etc. Ouais, moi je suis pas fan parce que bon, LA is a fucking shithole. Et puis bon, les fans américains sont pas forcément toujours les plus. Je trouve pas forcément mes mots, mais qu'est-ce que je pourrais utiliser comme mots les plus. Bon, on va dire c'est des retourneurs de veste, quoi. Ils suivent un peu les tendances sans vraiment avoir de cœur par rapport à un combattant. Bah, à part les OG comme Ferguson et tout, lui, évidemment, tout le monde va l'adorer jusqu'à la fin. Et puis c'est normal, c'est une légende, le gars. Mais voilà, je comprends pas pourquoi on va les bouer Bilal, pourquoi on boue Ian Gary, pourquoi si, pour ça, pour. Voilà, Bilal se fait bouer parce qu'il s'est pris un hypo, et Ian Gary se fait bouer parce que sa femme est à 40 ans. Voilà, va comprendre, man, j'en sais rien. Et encore une fois, je m'égare. Qu'est-ce que je fais? Je repasse au prochain combat qui est Paulo Costa contre Robert Whittaker. Et ça, c'était du fucking bon combat aussi. Hein, pas obligé d'aller jusqu'à un finish, une soumission, un KO pour avoir un fucking beau combat. Des fois, on a du très beau combat, de la très belle bagarre, hein, sans le finish. Et puis, ça a été le cas avec ce Paolo Borrachina. Je dois mal le prononcer. Ça devait être pathétique comme tentative. Face à Bobby Knuckles, Robert Whittaker. Excusez-moi, je dois boire. Oh yeah. Round 1. Non, qu'est-ce que je parle? Non, c'était trop bien, sérieusement. J'en parlais vite fait, je me suis peut-être enflammé sur Paulo Costa. J'en ai parlé avec des collègues vite fait offline sur Twitter. Bon, il y a des gens qui le trouvent toujours limité. J'en ai parlé avec des amis au gym ce matin. Il y a des gens qui me disent « Bah moi, j'étais épaté de Paulo Costa. » Bah moi, j'étais du côté des gens qui étaient épatés de Paulo Costa. Je l'ai trouvé beaucoup plus discipliné. Toujours avec ses limites, certes, je suis d'accord avec ça. Je ne pense pas que Paulo Costa va se transformer en super well-rounded MMA fighter, méga striker, etc. Je pense qu'il est juste capable d'y aller en ligne et de balancer des beaux crochets, de balancer des beaux kicks, et puis that's it, en ligne, évidemment, hein, les angles, etc., on repassera. Mais intéressant. Et puis, fuck man, Bobby Whittaker, man. Bobby Knuckles, Robert Whittaker, The Reaper, bordel, ce mec, comment on peut pas l'aider, pardon. Excusez-moi, je suis désolé, hein. J'ai pas envie d'arrêter, pas d'editing aujourd'hui, je ne m'arrête pas, c'est un 100 mètres de 40 km, je ne m'arrête pas. Round 1, échange de low kick au milieu du ring, hein. Paulo tente quelques high kicks, et là, je vous avoue que quand je l'ai vu balancer ses high kicks, alors il en envoyait plusieurs switch kicks, me semble-t-il, avec sa jambe avant. Ça, ces kicks-là, là, pour ceux qui pratiquent, vous savez que ça s'use du jus, là, hein, de faire des switch kicks. Et faut vraiment qu'il soit rapide et bon pour knockout ou alors faire mal à son adversaire ou pour connecter. Mais ceux de Paolo, le fait qu'il les prépare pas et tout, je me dis genre, est-ce qu'il est déjà en train de cramer son potentiel finish et que Whittaker les a vu venir et que c'est trop tard, il se fera plus connecter. C'était une possibilité, mais l'avenir nous dira le contraire parce que voilà, il est arrivé ce qui est arrivé à la fin du premier round. Overhand papier de Costa, hein. Par contre Whittaker est pas mal dans les combis vives, hein. Ça vraiment, les entrées sorties avec les papapa de Whittaker et dégager sur le côté, sortir du bon côté, enfin de la main qui est la moins puissante de son adversaire, pas mal. Par contre Costa place beaucoup de jabs assez puissants, vraiment premier round qui fait très très plaisir. Whittaker commence à lire les jabs de Costa et puis là il commence à placer des counters. Bon, après ça, Whittaker, on s'attendait à ce que sur le striking et même le MMA en général, il allait être au-dessus de Costa. Whittaker feinte, ça j'aime beaucoup, pousse Paolo contre la grille et time des low kicks très lourds, hein, qui font déjà très mal. Et là je me dis, s'il en mange trop, déjà que le cardio de Costa est pas foufou, enfin voilà, on regarde le combat contre Rockhold, c'était pas beau quoi, hein, vraiment pas beau. Et là j'ai un peu peur, sachant qu'il se fait découper la jambe, je me dis ça va être chaud. Les mains de Costa commencent déjà à baisser en plus, enfin voilà, il galère un peu à connecter sa main arrière à la distance alors que Whittaker rentre, blitz et sort. Par contre quand les jabs de Paulo Costa passent, ça pique, hein, et puis on le verra sur la face de Whittaker, son essaigne, etc. Il en aura mangé quelques-uns et ce moment de zinzin qui arrive à la fin du premier round avec un énorme spinning heel kick de Costa hein, qui touche, bim, direct sur la pommette de Whittaker. Et celui-là, hein, je ne l'aurais pas vu venir. Absolument pas. Je veux dire, il est passé plein de faces, il était fait magnifiquement bien, la distance était bonne, il y avait la puissance, il y avait tout. Et Whittaker titube direct, mini brawl de 5 secondes derrière et heureusement, on était dans les 10 dernières secondes, coup de corne. Premier avertissement pour Bobby Knuckles, pour Robert Whittaker. Ce sera le seul et unique pendant ce combat, mais bordel, c'était chaud pour lui. Directement, ça laisse une trace sur sa pommette. Hein. Le talon se gravait sur la pommette. Aïe, 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 ça doit faire fucking mal, man. Et clairement, ça l'a clippé, puis voilà, ça l'a rocké. Ouf, beau premier round, et puis le combat partira un peu sur le même rythme. Hein. Du moins, le deuxième round, c'était un très bon rythme aussi. Hein. Des beaux high kicks de Paulo avec un autre jab, ça, il le fera bien. Maintenant, il les prépare un peu plus. Jab, high kick, c'est déjà mieux. Rob, par contre, derrière, combine vraiment bien. Hein. Mais Costa passe toujours aussi autant de jab, pardon. Ce que Robbie Whittaker passera beaucoup, c'est beaucoup de low kick et beaucoup de calf kick. Et celui-là, ben, je pense que ça lui a un petit peu donné le combat aussi parce que c'est un peu nullifié, on va dire, Costa dans le troisième, qui avait toujours le cardio. Hein. Ça, je vous le dis, c'est vraiment le côté qui m'a étonné de Costa. C'est la discipline, le fait qu'il soit toujours présent et pas ridicule dans le troisième round. Même s'il a baissé de rythme, moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Costa soit toujours là. On se rampe coup pour coup au milieu du mat, hein, vers le milieu du deuxième round, c'est vraiment beau. Whittaker a le visage en sang, mais persiste sur ses entrées-sorties vives, connecte souvent avec la main avant. Hein. Ça, il le fait très bien. On l'avait vu contre Easy, par exemple, il essayait d'avancer juste avec son crochet fuyant, et puis là, j'ai l'impression qu'il a un peu réparé ça. Il le préparait un peu mieux, et ça marchait bien. Bon, après, Costa n'est pas Easy, hein. Les évasions de Costa ne sont pas les évasions d'Easy, mais il gardait sa garde haute. Par contre, les low kicks, évidemment, continuent d'arriver. Hein. Tu gardes ta garde haute, les jambes sont un peu ouvertes, et puis tu vois un peu moins, et t'es un peu plus genre concentré sur le haut de ton corps, donc forcément, c'est les low kicks qui passent, et ils font encore mal. Whittaker, t'aimes bien, c'est le jam de Costa qui commence à rentrer comme une marmule dans la poche derrière. Alors ça commence à être dangereux pour Costa si Whittaker time bien ses jabs qui pourtant sont rapides, piquants et forts. Hein, Costa aussi a répondu avec des low kicks. Il n'y a pas que Whittaker qui les a mis, mais Whittaker en a mis plus. J'aime beaucoup ce côté dog chez Bobby Knuckles. J'ai adoré ce round-là. Super round de Warrior. Un round chaque. Peut-être un round chaque parce qu'il y a eu ce côté titube de Robert Whittaker dans la fin du premier. Paolo va-t-il rentrer claqué avec une jambe dans le sac dans le troisième round? C'est la question que je me posais et la réponse est pas vraiment. Paolo était toujours là. Costa lève les mains dans la poche, c'est bon signe. Paolo passe des low kicks derrière les jabs. Oui, si le jab ne passe pas, le low kick va peut-être passer. Ça, c'est ce qu'on vous apprend aussi en pied-point. Pourquoi on fait des combinaisons? Bah parce que si vous faites une combinaison à 3, par exemple, en MMA, c'est rare là d'aller jusque 3, mais en pied-point, là, si vous faites des combinaisons, c'est parce que le premier va peut-être pas passer, parce que le deuxième va peut-être pas passer, mais parce que le troisième va peut-être passer. Si vous en mettez une propre, il y a de grandes chances qu'il y en ait une des trois qui passe. Hein, on espère que ce soit le power shot qui va passer. Mais pour Paulo Costa, j'ai bien aimé justement cette adaptation et le fait qu'il varie un tout petit peu plus. Hein. On a un petit peu de brawl aussi, mais bon, là par contre, Bobby Knuckles ne veut pas se laisser prendre au piège parce que Costa, on sait, hein, il est un petit peu dans la fin du combat, on est dans le troisième, il veut aller chercher un peu de brawl, Bobby Knuckles n'accepte pas et c'est très smart de sa part. Paulo Costa devient moins mobile à un moment donné dans le troisième, il continue avec ce combo jab low kick, le rythme descend un petit peu, mais Bobby Knuckles continue ses attaques et ses combinaisons furtives. Whittaker fin dans la dernière minute et dicte son pace. Super fight, bravo aux deux. Deux rounds à un pour tout le monde, me semble-t-il, pour Bobby Knuckles et victoire du Reaper. Super Paulo Costa. Super Paulo Costa. C'était un grosse progression de Paulo Costa comparé au dernier combat et ça m'a plu. Clairement, ça m'a plu, j'ai aimé ça. Franchement, si Costa est comme ça régulièrement, moi, je veux bien le revoir dans d'autres combats. En plus, on est chez les middleweight, il y en a qui sont battables, hein, c'est clair. Donc oui, re-ramenez-le et puis Bah, Bobby Knuckles revient dans la course. Hein. Lui qui s'est fait upsetter, l'upset de l'année. Hein. Il y en a peut-être eu d'autres, mais là, le premier qui me vient à l'idée, l'année dernière, c'était clairement Bobby Knuckles face à Dricus du Plessis. Hein. C'était le plus gros upset au UFC hein, en 2023. Donc oui, je veux absolument voir la revanche entre Duplessis et Whittaker. Après, je ne suis pas matchmaker, je ne suis pas forcément au courant de combien les rumeurs s'avéreront vraies ou pas hein, d'un potentiel easy face à Duplessis. Voilà, il me semble que le main du 300 est sorti et que c'est Poatan face à Jamal Hill. Voilà, donc je pense pas qu'on aura Easy contre Duplessis. Peut-être on l'aura, mais quand je dis peut-être on l'aura, c'est je parle de UFC 300, mais on devrait l'avoir cette année, peut-être. Je sais pas. Anyways, moi je suis prêt à revoir Bobby Knuckles, c'est un monstre. Bravo, quelle carrière ce mec est trop, trop bon. On l'adore, merci Bobby Knuckles. Et on passe au main event. Alors, ça, comme je vous l'avais dit, j'étais tellement pumped, hyped, heureux, satisfait d'avoir le retour du Volk en featherweight. C'est super important parce que cette catégorie est très, très, très bonne, très compétitive. Il y a des killers qui s'en sont venus récemment, hein, notamment Ilia Topuria, mais aussi Movsarev Loev qui est un gars très compliqué, qui va être un gars très compliqué pour la catégorie au UFC. Et bordel, man. Bordel, quel fight, mais aussi quel fight week avec un Topuria qui avait tout planifié du début à la fin, qui s'est fait beaucoup de... Ben, pas d'ennemis, mais genre de... On va dire comment... De mauvaises opinions, hein, côté fan, parce que, bon, il en a fait trop avec la ceinture, il en a fait trop avec genre... Non, mais lui, je le bats, et lui, je le bats, et lui, je le bats. Alors, oui, même selon mes standards de gars super tolérants, on va dire... Il y a eu des déclarations sur lesquelles j'étais pas d'accord, mais de là à dire qu'il me saoule et qu'il me fait chier, non. Il y a quelque chose que vous avez pas compris, le gars, il était vraiment dedans, le gars, il est très bon, il a confiance en son niveau, et il a confiance en son niveau parce qu'il a roulé sur des gars qui sont quand même pas mauvais, hein. Bryce Mitchell, c'était un problème. Bon, après, je sais ce qui lui est arrivé, hein. Vous n'allez pas m'apprendre c'est quoi ce qui s'est passé, mais il a quand même roulé sur des gars. Et puis moi, j'aime bien suivre un petit peu c'est quoi ses entraînements, etc. Son partenaire d'entraînement principal, en général, dans la vie de tous les jours, c'est son frère. Et son frère est super bon, là. Il a signé au UFC, d'ailleurs. Mais bon, il a fait des bons collages chez Octagon et tout. Son frère est fucking bon, Alexandre. Et Ilia Topuria était ceinture noire, je crois, à 21 ans, quelque chose comme ça. Et puis tout le monde, enfin, beaucoup de gens croyaient que c'était genre un gars qui avait juste de la dynamite dans les mains, mais on n'a pas vu son sol encore. C'est un monstre. Un monstre au sol. Et ce mec a de la puissance comme pas deux dans les mains. Et le fait qu'il soit vraiment motivé et qu'il se dise « je vais gagner ». Bon, après, il aurait perdu, ça aurait été autre chose. Mais moi, le combat, la façon dont je le voyais, et vous allez me dire genre « ah ben, mais c'est facile à dire une fois que tu as vu le combat et que le combat est passé ». Oui, mais non, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pensé comme moi, c'est que si le combat allait maximum 3 rounds, Topuria gagner. Si le combat, on passait dans les championship rounds, je voyais Volk gagner parce qu'on n'a aucune idée de c'est quoi le cardio de Ilia. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, encore maintenant, là, on ne sait pas s'il peut aller 5 rounds, on ne sait pas s'il peut aller 3 rounds, 4 rounds vraiment à fond, on ne sait pas. On ne le sait toujours pas, mais c'est pas grave. Parce que on recommence. On recommence les featherweight. On a un nouveau champion featherweight. On a un gars qui est jeune. On a un gars qui, comme je vous le dis, est un knockout power de débile pour les 145. Un gars qui a un sol de fou qu'on n'a pas encore vu. Enfin, je veux dire, c'est... L'avenir est radieux, quoi. L'avenir est radieux. Et puis, bon, bah, y a, évidemment, je le vois chez... Même chez des, je ne vais pas les appeler les collègues parce que ce n'est pas notre travail, mais vous voyez ce que je veux dire, de la commu, du MMA Twitter francophone, j'ai envie de dire. Il y a plein de gens qui ont été saoulés par le comportement d'Ilia, mais moi, je ne l'ai pas été parce que ben, ce mec, encore une fois, il savait où il allait, mais je suis content pour deux communautés, les Géorgiens et les Espagnols. Les Géorgiens, ils n'ont jamais eu de champion, mais ils ont des killers dans le UFC en ce moment. Les Espagnols, ils n'ont rien de bon en MMA. Rien. De ce que je connais, hein, excusez-moi. Et puis, peut-être que vous pouvez me dire le contraire, etc. Mais je suis incapable de vous dire un bon Espagnol qui a bien été bon. peut-être dans le temps avant, etc. Hein. Je connais pas tout en même, hein, loin de là. Hein. Très loin de là. Mais je suis content pour les Espagnols aussi. Et puis, genre, ça m'a... Moi, ça m'a motivé cette Fight Week parce que je fais putain, on a un nouveau quoi. C'est un géorgien espagnol qui s'entraîne en Espagne. C'est son gym, le gym de son. Enfin, Clement est en Espagne, à Alicante, une petite ville fuck, en dessous de Valence, man. C'est un gars qui. Enfin, voilà, c'est un gars qui a travaillé fort. Il vient de chez Cage Warrior. Ça met la lumière sur le MMA européen, mais les gens sont quand même saoulés. Voilà. Et moi. Ben moi, je suis un fan du sport, je suis un fucking romantique, les amis. Donc moi, ça me faisait plaisir de voir le Matador monter comme ça et puis se faire des fucking montages sur Twitter et puis avoir genre avoir des joueurs du Real, avoir des joueurs du Barça, avoir Nadal, etc. Et tous ces gars-là qui le poussent et qui sont là genre « Vamonos, vamos Ilia, ser el campeón, etc. etc. » et, moi, ça me hype. Moi, ça me hype parce que c'est ça, le fucking sport. C'est ça, aimer des sportifs. Et c'est ça, aimer des futurs champions. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous sentez la passion dans ce que je dis quand même. Hein. Il y a des gens qui osent dire que je suis amoureux de Ilia. Déjà, j'ai envie de leur répondre. Excusez-moi, mais déjà, il est plutôt beau garçon. Hein. Et de deux, non, je suis pas amoureux. Je suis amoureux du sport, man. Et je te le souhaite à toi aussi, que tu sois amoureux du sport. Parce qu'être amoureux du sport, fuck, ça fait du bien, man. Allez mes canailles, rentrons dans le combat parce que peut-être que je vous saoule un peu avec mes élans romantiques, mais c'est ça aussi. Hein, c'est ça la passion et l'amour du sport, c'est l'amour du sport les gars. Premier round, Topuria part à la chasse, on va dire dans les deux premières minutes. Hein, mais c'est clair qu'avec son style, avec ses mains, il voulait absolument pousser Volk contre la cage pour un peu pour le coincer et le terminer. Hein, parce que c'était avec ses mains qu'il allait vouloir le terminer. Probablement, hein, c'est comme ça avec ses adversaires aussi. Mais par contre, écoutez, on a toujours le champion en face. Hein, fuck, Volk bouge tellement bien. Et puis comment il bloquait les avances de Ilia avec des middle kicks rapides et des bonnes circulations. Là, on voyait le Volk imbattable face à Max. Le gars qui avait cassé l'énigme du striker qui avance sur toi, etc. J'ai trouvé ça super bien de Volk. Vraiment, c'était bon. C'est vraiment ça, de la part de Volk, dans le premier round, j'ai trouvé ça excellent. Et puis, si c'était comme ça, je vous le disais, hein, je vous l'ai dit, si c'était comme ça pendant plusieurs rounds où Volk allait pas faire l'erreur qu'il allait faire, et ça, je vais vous en parler par la suite, peut-être que ça aurait pu être un gros problème pour Ilia, et ça l'a été pour beaucoup d'autres combattants, hein, ça aurait pu l'être pour Ilia aussi, mais ça a été différent. Et puis Ilia is a different breed, bro. Premier gros low kick de Ilia, par contre, passe. Après trois low kicks, Volk change de stance. Et là, premier petit problème, c'est que Ilia aussi s'est connecté les low kicks. Hein. Ça, Volk contre Max l'avait très bien fait. Mais lui, Ilia, je pense que aussi il a eu le temps de... Et ça fait longtemps qu'il va aller chercher son title shot, ça fait longtemps qu'il en parle, et comme je vous dis qu'il préparait ça pendant tout le Fight Week, pendant des mois, pendant des années, vous ne croyez pas qu'il a étudié Volk depuis le tout début ? Bien sûr que oui, c'est sûr qu'il était à fond là-dedans. Ça a donné ce que ça a donné, comme je vous le dis, là, changement de stance pour Volk, c'est compliqué, et c'est là que Volk a commencé à reculer sur les combinaisons en anglaise de Ilia. Et reculer, ça va, mais reculer avec une fuite en arrière, avec genre vraiment juste mettre sa tête, vraiment reculer sa tête, un peu comme, ça va être dur de dire ça, mais un peu comme quand tu débutes en sparring, plutôt que de te déplacer, d'utiliser ton footwork, aller chercher les angles, etc., tu vas instinctivement, c'est normal, hein, y a des points qui arrivent dans ta face, tu la recules. Et là, c'est là qu'on voit aussi le niveau de Ilia et à quel point c'est un danger, c'est que Volk a commencé à reculer un petit peu comme ça. Tu peux pas reculer indéfiniment. À un moment donné, tu as forcément les cordes derrière toi ou la cage derrière toi. Et c'est ça qui paiera au final pendant le round. Volk, vraiment toujours actif, hein, je vous dis. Quand on reste dans la zone, par contre, j'ai peur pour Ilia un peu parce que ça lui est arrivé plusieurs fois dans des combats de se faire connecter. Et puis Volk a des bonnes mains. Clairement, Volk sait tout faire. Donc même dans la poche, tu es en danger contre Volk. Et puis s'il commence à grappler, ça peut être un problème aussi en lutte. Hein. Il peut gagner un round comme ça, te casser la tête. Enfin, te casser les couilles surtout. L'énigme Volk, hein, on en a parlé pendant des années. Et puis il est toujours bon, comme je vous le dis, dans ce premier round. On voit toujours du très bon Volk. Mais round 1, méga stressant. Franchement, je vous le dis, j'ai les mains moites, etc. C'est ça aussi, l'amour du sport. Il y a le stress qui vient avec. Les low kicks font mal à Ilia, hein, par contre, hein, je vous dis, et puis il y a une main gauche qui a connecté de Volk, alors tout est possible. tout est possible, sauf reculer constamment, comme je vous l'ai dit, et puis se retrouver dos à la grille. Deuxième round, beau dynamisme du Volk après les jabs et les changements de stance. Par contre, Ilia commence à trouver la distance avec ses 1-2, et là aussi, c'est un problème, hein, clairement. Quand on commence à trouver la distance et qu'on a des mains de feu, ça peut être un problème en face, hein. Et le Volk reculant en ligne, ça finit par passer, évidemment, c'est 1-2. Et puis en plus, Ilia continue avec des low kicks. Le Volk passe toujours aussi des bons jabs, hein, mais par contre, Ilia, c'est pas un problème. Il est capable de s'en prendre 2-3 dans la face. Et Ilia aussi un très bon head movement. Il est très, très rapide. Déplacement très, très bon. Seul problème, je vous dis, c'est des fois dans la poche, ça peut être un peu sloppy. Et puis, il assiste un peu, je pense, sur son compté, que je suis capable de coucher n'importe qui. Donc peut-être il se sent un peu trop confiant dans des situations où il ne devrait pas se sentir confiant. Excusez-moi, deuxième pause d'eau. Je continue, je ne veux pas arrêter. Ah oui, c'est ça d'être tout seul à faire un podcast. Vous vous tapez mes problèmes. Les jabs de Volk font toujours mal. Je trouve qu'ils circulent un petit peu mieux. Mais bon, vraiment, le head movement de Ilia est parfait. Ce combat s'en vient bien. Mais encore une fois, ce reculon de Volk, hein, qui lui fait tort. Qui lui fait très tort cette fois-ci, parce que là, il s'est vraiment retrouvé dos face à la grille. Et puis, Ilia, lui, quand t'as le dos à la grille, il a vraiment le goût du sang. Et puis, Ilia, c'est le pire gars que tu peux avoir en face de toi quand tu te retrouves dos à la grille et qu'il y a un gars qui lâche les chiens. C'est chaud. Et quand ça connecte, ça tombe direct avec Ilia Topuria. Et puis Volk était vraiment KO. Ilia a suivi avec du grand end pound pour finir, mais a été vraiment gentil dans la façon, parce qu'il voyait que Volk était face contre terre avec les bras tout mous. Il lui a pas mis une Dan Anderson pleine face, c'est absolument pas nécessaire. Il a été genre, comme il le disait, encore une fois, il arrive dans le dernier moment du Fight Week où il se retrouve face à face après la conférence de presse devant le public, et il lui dit genre, dude, t'es vraiment un bon gars, t'es vraiment un bon champion, je suis juste là pour poursuivre mes rêves. Comment cette phrase-là ne prend pas tout son sens après tout ce Fight Week, après tous ces mois, toutes ces années, le fait qu'il veuille demander des title shots tôt, etc. Je vous le dis, il a vraiment genre étudié le Volk, mais genre sur le bout des doigts, quoi. Et ça a donné ce que ça a donné. C'est sûrement genre, il a sûrement vu une faiblesse dans le système de Volk, et puis il a dû se dire genre, ouais, Volk, il recule un peu, ou alors quand il est un peu bloqué, des fois il traîne un petit peu, et puis moi je mets 500 fois plus de pression que n'importe quel autre featherweight quand je suis contre toi, que t'es dans la grille, ou dans les cordes, whatever. Voilà, il a poussé le moment où il fallait, et puis... Et le premier a été le bon. C'est ça qui est terrifiant aussi, parce que, mine de rien, Ilia est dangereux avec ses mains pas mal tout le temps, mais le vrai moment de danger, ça a été terminé pour le Volk. Est-ce que c'est pas un moment qui est clinique, ça? Ça, c'est pas un moment qui ferait peut-être un peu peur pour la suite? Écoutez, je veux pas faire de plan sur la comète à dire Ilia va défendre sa ceinture 5-10 fois, j'en sais absolument rien. Toujours est-il, c'est que Ilia a été une bête de travail. Il a fait des camps aux States, en plus de ses camps en Espagne, voilà. Le gars qui a tout compris, quoi. C'est qu'il a une base solide chez lui, avec un training partner excellent qu'est son frère, et d'autres forcément sur place aussi. En Espagne, il s'entraîne avec des boxeurs. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos où il se part avec des... Bon, après, les boxeurs en Espagne, ce n'est pas forcément les champions du monde, mais avec des pros quand même. C'est un gars du MMA, hein, je vous le rappelle, hein, Ilia. Et pas un gars de la boxe, hein, c'est un gars du grappling à la base. Judo et BJJ derrière. Donc, le fait que moi, je le voyais performer dans le ring, certes, c'était du sparring, mais la façon dont il se lâchait, puis ce qu'il envoyait, j'étais là genre, fuck, man. Il sait utiliser ses mains, ce bonhomme, quoi. Ça, on l'a vu en MMA, mais quand tu le vois contre un boxeur avec des gros gants dans un ring, la façon dont il se déplace et tout, il y a de la vraie boxe là-dedans, et c'est terrifiant. C'est fucking terrifiant. Et puis, la façon dont il a éteint Volk, c'est terrifiant aussi. Excuse-moi, hein. Volk, après, j'ai même pas envie de parler du deuxième combat contre Islam, parce que ça, c'était une des grosses erreurs du Volk, c'est d'avoir accepté Ce deuxième combat-là, je l'ai dit, je le redirai, je le penserai toujours. On s'est fait voler la revanche entre Volk et Islam par Volk lui-même. Hein, le UFC a dû lui proposer, ça c'est une erreur du UFC, et bref, c'est du 50-50, le Volk a accepté, il nous a expliqué pourquoi, mais à la fin, ça reste une erreur, et ça a pourri ce deuxième combat. Est-ce que ça a pourri sa fin de carrière? Ça, on le saura, et je ne lui souhaite absolument pas, parce qu'encore une fois, ça n'est pas que je suis en amour d'amour affectif, que j'ai envie de le marier, Topuria, c'est que j'aime le fucking combattant, et je suis aussi en fucking amour avec le règne du Volk, parce que c'est magnifique ce qu'il a fait, il a défendu sa ceinture 5 fois, il a cassé l'énigme Max, il a battu Max 3 fois, enfin voilà, genre, je veux dire, il a fait de grandes choses, et puis pour aller jusqu'à aller chercher Max, il a fait de grandes choses aussi, c'est incroyable ce qu'a fait le Volk, et puis j'adore son fucking règne au Volk, qui n'aime pas ça, et puis le gars est super attachant, le gars est génial, bref, j'aime les featherweight, et j'aime le MMA quand c'est beau, et puis là on a eu du tragique, on a eu du drama, on a eu tout, on a eu toute la recette parfaite. Et il y a Topuria et le nouveau champion des featherweight, El Matador. El Matador mata. Hein, incroyable, les amis, franchement. Ouais, moi je suis content. Je suis content de cette nouvelle ère. C'est dur pour Alexander Volkanovski, for sure. C'est dur, mais c'est ça le sport. C'est ça la bagarre, c'est que ça peut être tragique quand ça arrive. Bon, pas tragique dans la santé, hein, parce qu'il se remettra de ce chaos, j'espère. Mais voilà, c'est tragique, c'est très tragique parce que c'est triste. C'est un règne qui tombe en l'espace de quelques secondes comme ça. C'est dur, mais c'est la dure loi du sport et du MMA. Merci pour l'écoute de ce podcast. Voilà, je me suis fait plaisir sur celui-là, excusez-moi, je me suis un peu emporté, etc. Mais comme je vous le dis, je suis un romantique du sport. Je suis un romantique du sport, les gars. Je vous le souhaite à vous aussi. Merci à vous. On se reparle très bientôt. Ciao. At the end of the day, it is what it is.